Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est présente pour les 30 prochaines minutes à la barre de C'est bon pour la santé sur Canal M. Si vous êtes stressé à chaque fois que vous avez à écrire un courriel ou peut-être encore vous avez un enfant, un tout petit à la maison qui a des difficultés, différentes difficultés d'apprentissage ou encore dans votre milieu de travail, vous êtes gêné par rapport à vos collègues de travail parce que vous faites beaucoup de fautes. Quand vous écrivez, bien le projet Voltaire, ça pourrait vous intéresser. C'est un site web qui favorise l'apprentissage de l'orthographe et j'en parle en deuxième partie de l'émission avec Marielle Potvin, elle qui est orthopédagogue. Mais d'abord, peut-être serez-vous d'accord, peut-être pas, avec ce vieil adage, le travail, c'est la santé. Dans la vie en général ou un peu comme dans le travail, et c'est ce que je retiens de l'entrevue qui s'en vient là et de toute ma préparation, de mes lectures, c'est qu'on est souvent évalué ou on évalue les autres, nos pairs, par leurs faiblesses. Mais pourtant, il y a beaucoup plus de ressources ou peut-être même d'entrain, je dirais, à évaluer ce qu'il y a de fort chez les autres. En fait, de voir ce qu'ils font de mieux et de les valoriser dans tout ça. J'en parle dans quelques instants. Donc, on va aborder ça aujourd'hui. Comment on favorise le fonctionnement optimal? Comment la santé et le bien-être peuvent être présents dans notre milieu de travail? Tout ça avec Jacques Forêt, lui qui est psychologue organisationnel, professeur-chercheur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour Jacques Forêt.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous n'êtes pas loin, hein, c'est ça qu'on disait,
l'UQAM,
juste à côté.
C'est un plaisir de venir ici.
Dans le travail, il y a le travail qui peut être bénéfique et le travail qui est toxique. Comment on fait pour évaluer les deux? À quel moment le travail devient toxique, par exemple?
À quel moment? Ça, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'il y a différentes raisons qui peuvent animer les gens pour émettre n'importe quel comportement, que ce soit au travail ou dans la vie en général. Moi, je me concentre sur la vie au travail parce qu'on passe plusieurs années à l'école pour s'y former, beaucoup d'heures au travail par semaine, et ça pour plusieurs années. Il y a quatre grandes catégories de raisons qui peuvent animer n'importe quel comportement humain. Le premier type de catégorie de raison, c'est tout ce qui est plaisir. Lorsque les gens vont dire « moi, j'aime mon travail, je vois pas le temps passer, je me sens comme absorbé dans ce que je fais », souvent, les gens vont plus le connaître avec leur loisir, mais c'est aussi possible avec certaines tâches au travail. Ça, c'est le premier type de motivation, c'est la motivation plaisir, qu'on va appeler motivation intrinsèque en milieu de travail. Le deuxième type de motivation, c'est lorsque ça arrête d'être agréable, lorsque ça arrête d'être le fun. Parfois, il y a certaines tâches qu'on va vouloir réaliser parce qu'on croit que c'est important. À titre d'exemple, donner du sang, c'est pas une tâche qui est agréable. On se fait rentrer une aiguille, on est couché, etc. Mais pourquoi on fait ces actions-là? C'est sûrement pas pour le beigne et le café après. C'est parce qu'on contribue à quelque chose de plus large que soi. C'est le deuxième type de motivation qu'on va appeler la vocation. Donc, plaisir et vocation, ce sont les raisons saines, ce sont les raisons bénéfiques pour travailler.
Okay.
Les raisons moins saines ou qui prédisent des conséquences soit mitigées ou négatives sont aussi au nombre de deux. Donc, on a le plaisir, la vocation, les deux derniers types de motivation. Ce sera la motivation égo, tout ce qui est relatif à l'estime de soi ou encore la réputation. Les gens qui veulent se prouver soit à soi-même ou aux autres, ou encore qui veulent préserver leur réputation. Donc, soit valorisation ou protection de l'estime de soi, c'est ce qu'on va appeler la motivation introjectée. Puis finalement, il y a les motivations qui s'y gravitent autour des récompenses. Elles peuvent être sociales, mais aussi monétaires. Au milieu de travail, on pense beaucoup à l'argent, au salaire, aux bonis, etc. La recherche va démontrer qu'il y a des raisons positives qui sont rattachées au fait de faire un travail principalement par plaisir ou par croyance profonde et qu'il y a des raisons mitigées ou négatives à faire principalement un travail pour l'ego ou encore les récompenses. Donc, à votre question, c'est où trace-t-on la ligne quand le travail devient toxique?
Ouais.
C'est lorsqu'il y a plus de raisons égo et récompense que de raison, argent et croyance.
Oui, parce que, on l'explique, là, j'ai lu les documents que vous m'avez envoyés, j'ai fait mes devoirs, Jacques Forêt, parce que vous êtes vraiment l'auteur de plein d'articles sur le sujet. Là. Si on tape psychologie positive ou santé au travail, tout ça, on arrive sur vos publications assez facilement. Il y a des tableaux et c'est difficile de dire, moi, je ne suis qu'entièrement ça ou entièrement ça. Il y a des journées où j'arrive au travail et bon, peut-être que je le fais pour de moins bonnes raisons, mais d'autres fois, c'est vrai que je suis vraiment engagée dans ce que je fais. C'est en mouvance.
C'est en mouvance constante, mais on peut quand même déceler des tendances générales, soit par secteur de vie, par exemple au travail, dans notre vie personnelle, etc. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des fluctuations et ces fluctuations-là vont amener des conséquences positives ou négatives. Mais il y a des tendances générales de fond qui sont plus de l'ordre de la personnalité et on peut mesurer ces différents facteurs-là. Les différents types de motivation dont je vous parlais, plaisir, vocation, égo et récompense, on l'a mesuré avec plus de 3435 travailleurs dans 7 langues différentes,
okay,
dans 9 pays situés dans 4 continents différents, donc en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. Et les structures des motivations ne changent pas.
Okay.
Donc, c'est invariable culturellement. Donc, à votre question, est-ce que ça fluctue tout ça? Tout à fait. Il y a des journées, des fois, qu'on éprouve certains types de motivations qui sont plus présentes que d'autres. Mais il y a vraiment une tendance générale qu'il est possible de mesurer, à tout le moins en recherche.
Et ce qu'on retient de ça, en tout cas du moins moi, c'est que l'argent, ce n'est pas une source de motivation suffisante.
Si on regarde ça à travers les gens... l'ego et les récompenses, les deux types de motivation qu'on va dire de moins grande qualité, sont quand même capables de prédire un petit peu de bien-être. Mais des fois, ils vont prédire du bien-être puis de la détresse en même temps. En ce qui a trait à la performance, ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas efficace à stimuler la performance. L'argent est démontré comme étant efficace pour augmenter la quantité à court terme, ouais, au détriment de la qualité à long terme.
Mm-hmm.
Donc, si on veut uniquement de la quantité à court terme, sans aucune préoccupation à l'égard de la qualité, bien, l'argent, ça peut être un bon élément motivant. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, dans notre enquête, dans 9 pays, on avait 3400 travailleurs dans des domaines aussi variés que l'éducation, sciences et technologies, des fonctionnaires, des gens syndiqués, non syndiqués, dans une pléiade de domaines, invariablement, les récompenses ou encore l'estime de soi, c'est des moins bons éléments prédictifs du bien-être, de la santé puis de la performance que ne le sont le plaisir et l'utilité sociale de la tâche. Donc, l'argent comme tel, ce n'est pas mal, mais c'est probablement un des éléments les moins motivants,
ouais,
qu'on peut trouver.
Est-ce qu'on a pu observer chez les gens qui ont des motivations plus d'ordre, soit de l'ego ou pécunier, là, les bonis,
oui,
ou le salaire, est-ce que ce sont des gens qui changent plus souvent de travail, qui sont moins stables?
Ces types de motivations-là, sans l'attacher à des groupes d'individus spécifiques ou avec des caractéristiques en recherche, ces types de motivations-là sont reliés à plus d'instabilité comportementale. Donc, l'intention de quitter,
mm-hmm,
ces gens-là vont être très attentifs, par exemple, à un autre emploi qui semble être le même, mais qui est mieux rémunéré, en oubliant tous les autres éléments. Donc, c'est mauvais guide des actions. Une de mes étudiantes de thèse a fait son étude de thèse justement sur les aspirations de carrière des gens. Donc, au lieu que ce soit des motivations en lien avec leur travail, c'est qu'est-ce que je veux avoir accompli dans toute ma carrière, donc dans un horizon temporel beaucoup plus grand. Et on va voir que le succès financier, le fait de courir beaucoup après ça, c'est pas contributif ni au bonheur, ni à la performance.
Oui.
Donc, les gens qui ont de hauts types de ces motivations-là, c'est pas bénéfique pour eux, contrairement à ce qui est généralement véhiculé.
Et si ce n'est pas bénéfique, ça... peut-être pas nécessairement des impacts positifs sur la santé. C'est là que je veux vous amener, Jacques. C'est-à-dire à quel point ces sources de motivation-là, qu'elles soient plus positives ou plus ou moins, a des impacts sur la santé du travailleur.
Les raisons pourquoi vous vous rendez au travail peuvent vous rendre en santé ou malade.
Ça, là là.
Ça, c'est clairement déterminé. Nous, on va utiliser différents indicateurs pour mesurer à la fois le bien-être et le mal-être. Donc, le travail peut être stimulant pour la santé tant et aussi longtemps qu'il y a beaucoup de raisons, plaisir, vocation, et peu de raisons, récompense et égo. Des exemples de conséquences qu'on mesure, ça va être, par exemple, la vitalité subjective. Est-ce que je me lève le matin et j'ai beaucoup d'énergie, j'ai hâte à ma journée? L'anticipation du futur, l'espoir, des émotions positives. Les gens qui ont des bonnes motivations, ils ne voient pas de différence entre leur loisir puis leur travail.
Mm-hmm.
En fait, ils sont capables de tracer une ligne, mais je veux dire, ils sont capables de se sentir bien, efficaces, bien connectés avec d'autres personnes au travail et dans d'autres sphères de vie. À l'autre bout du spectre, le travail peut nous rendre malades s'il y a plus de raisons, récompenses et égaux, et moins de raisons, plaisir et vocation ou utilité sociale. Des exemples d'indicateurs qu'on va mesurer, c'est des symptômes d'épuisement professionnel, comme l'épuisement émotionnel, se sentir au bout du rouleau, la dépersonnalisation ou le cynisme. On se voit dans le miroir, mais on a l'impression d'être quelqu'un d'autre. On a l'impression d'être sorti de notre corps tellement on n'est plus soi-même. Ou encore une perte d'efficacité. Les gens vont mettre beaucoup d'efforts, mais ça ne mène pas au résultat escompté. Donc, aux deux bouts du spectre, le travail peut être la santé ou encore la détresse complète. C'est tout dépendant des raisons qui nous animent.
Donc, ça serait super intéressant qu'il y ait des gens qui se penchent sur les gens qui font des burn-out ou des épuisements professionnels, que ce soit à répétition ou lors d'un épisode dans la vie, et de voir les motivations qui les animent à aller travailler et peut-être même pouvoir les guider dans soit un autre choix de carrière ou bon, tout voir la structure autour.
Bien, c'est relativement bien documenté. J'ai mon collègue Claude Fernet à l'UQTR qui fait beaucoup d'enquêtes sur l'épuisement. On connaît les raisons qui amènent les gens à l'épuisement. La première étape sera de cibler ces sources d'épuisement-là, si on peut les appeler comme ça, et de les diminuer. Mais une fois qu'on a réduit la détresse, ça ne veut pas dire qu'on a augmenté le bien-être. Donc, c'est la moitié de l'histoire. L'analogie que je prends souvent, c'est le jour où on finit de rembourser notre hypothèque, on n'est pas nécessairement riche. C'est la même chose avec notre capital psychologique. Une fois qu'on a écarté de notre vie tous les irritants, les éléments négatifs, les émotions négatives, ça ne veut pas dire qu'on est heureux. Donc, moi, dans mes interventions ou encore dans mes formations que je donne, il faut allouer de l'énergie aux deux moitiés de l'histoire. Réduire le négatif et augmenter le positif. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les deux, à la fois au niveau individuel ou organisationnel. Mm-hmm. Mais de réduire tout ce qui va mal ne veut pas dire qu'on va augmenter ce qui va bien. Il faut faire les deux en même temps.
Je veux revenir à mon introduction de tout à l'heure quand je mentionnais que quand on utilise nos forces, souvent, et ça, je pense que les gens vont bien le saisir parce qu'on a tous vécu ça à un moment donné ou l'autre, on est plus performant, on se sent bien, on a plus de plaisir au travail, mais on fait comment pour les reconnaître, ces forces-là en nous?
Très bonne question. En fait, il y a un groupe de chercheurs qui s'est préoccupé de ça, un groupe de chercheurs internationaux qui sont allés recenser à travers l'histoire et les cultures tout ce qui va bien avec l'être humain, les talents, les forces, les vertus. On a dénombré plusieurs dizaines d'éléments, ce qui était trop. On a appliqué 12 critères discriminants pour réduire l'étendue, le nombre de forces. Et il y aurait 24 forces qui sont présentes dans toutes les cultures et chez tous les individus.
Mais ça, moi, je trouve ça fascinant que ça soit partout dans le monde
comme
ça. Donc,
toutes vos auditrices et auditeurs ont en soi les 24 forces. Vous les avez, je les ai. Ce qui va faire la différence entre une personne et l'autre, c'est l'ordre à l'intérieur desquels les forces sont plus présentes chez soi ou moins présentes. Il y a un questionnaire gratuit qui existe pour les identifier, donc qui est disponible au viame.org, donc viame.org. Vous rentrez sur la plateforme, vous vous inscrivez, vous répondez aux questions et automatiquement, ça va vous ordonnancer vos forces de la plus présente à la moins présente.
Okay.
Nous, on a testé scientifiquement une intervention qui vise à augmenter l'utilisation des 5 forces les plus présentes, ce qu'on va appeler les forces signatures. C'est notre signature dans la vie. Et on a démontré que, premièrement, on peut agir sur l'augmentation de l'utilisation des forces. Ce n'est pas quelque chose de statique. On peut augmenter muscle d'utilisation des forces. Et ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que le fait d'utiliser ses forces augmente son bien-être au travail. Mm-hmm. Donc, on n'est pas pris dans un carcan avec un niveau prédéfini de bien-être. Si on peut utiliser souvent, longtemps et intensément ses forces, le travail, bien, ça va être plus le fun puis plus énergisant. Mais quand je présentais ça dans les compagnies, beaucoup de gestionnaires me disaient « c'est bien le fun que les employés se sentent mieux, mais est-ce qu'ils sont plus efficaces? » Ça nous a pris 2 ans de plus pour trouver la réponse, mais on l'a. L'utilisation des forces mène effectivement à plus de performance également. Donc, le fait d'utiliser souvent, longtemps et intensément ses forces, c'est à la fois bénéfique pour le travailleur, mais aussi pour l'organisation qui l'emploie.
Oui.
Donc, c'est une situation gagnant-gagnant.
Mais pourquoi, en tout cas du moins en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est comme ça partout, les entreprises ne voient pas ça sous cet angle-là? En tout cas du moins, il y en a sûrement. Là, je ne connais pas tout l'univers du travail parce que ça changerait la face du travail, finalement.
Bien, moi, je l'ai donné à 45 reprises, donc il y a au moins 45 endroits qui connaissent ça. Mais
au Québec?
Bien, au Québec, oui, puis en Europe aussi.
Okay.
Mais essentiellement, lorsqu'on connaît les évidences, on ne peut plus les ignorer. Il y a 6 Canadiens sur 10 qui croient à tort qu'on doit cibler ses faiblesses pour y remédier, pour augmenter la performance.
Oui.
C'est une idée largement répandue, tout simplement parce que le mal est plus fort que le bien. Dans notre esprit, le réflexe naturel et normal qui nous a permis de nous maintenir, c'est d'identifier les sources de mal ou de négatif pour les réduire. Mais dans des environnements comme en Amérique du Nord, où on va pas, en tout cas pour la grande majorité des gens, on va pas mourir de faim le lendemain, c'est pas une source de préoccupation. On a encore ce réflexe-là. C'est une approche qu'on va appeler par déficit. On cible les faiblesses, on tente d'y remédier, puis on s'imagine qu'on va avoir plein de performances. Le plus grand potentiel de développement résiderait plutôt dans nos forces. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier nos forces. Ouais. Tout le monde a en soi des faiblesses, des défauts, etc. J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Mais notre réflexe normal, c'est d'allouer trop d'énergie à réduire les faiblesses. Les faiblesses, il faut s'en préoccuper tant et aussi longtemps qu'ils peuvent peut-être faire dérailler notre carrière ou encore étouffer un peu notre performance. Travailler sur ces faiblesses, c'est comme relâcher les freins en vélo. Mm-hmm. En relâchant les freins, on ne va pas plus vite. Mais si on pédale en maintenant les freins, ça va être trop forçant. Donc, il faut relâcher les freins, mais travailler sur ses forces, les identifier, tenter de les utiliser, c'est ça qui va nous faire avancer dans la vie.
Oui, je vous écoute et je me dis, le potentiel de faire des équipes formidables, des équipes de travail formidables en connaissant ce principe-là, de dire, ben j'ai un individu dans mon équipe de travail qui a ces cinq forces signatures-là, l'autre a cinq forces signatures complètement différentes et là, je fais une équipe complètement complète. Là.
C'est une très bonne intervention. Je l'ai fait à trois reprises en entreprise, puis j'encourage les organisations où je vais faire l'information à rendre ça disponible. Il y a des endroits, ils ont tellement émis le questionnaire, ils ont fait imprimer les cinq forces signatures de chaque employé, mm-hmm. ils ont fait plastifier les feuilles, puis ils ont collé sur les portes de bureau.
Ben oui.
Moi, à chaque fois, je rencontre mes étudiants et étudiantes au doctorat, dans leur chemise, la première page que je lis, ce sont leurs forces signatures. C'est complètement une mentalité totalement nouvelle qui est validée par la science, qui permet d'augmenter le positif. Donc, moi, je suis vraiment enthousiaste quant à la place du travail, à l'avenir, parce qu'on a des évidences empiriques de la sorte qui montrent que le travail, c'est pas juste pénible, difficile, de la détresse, c'est pas vrai. Oui, ça peut l'être, mais le travail, ça peut vraiment être agréable.
Et moi, je connais des patronnes qui auront vent de ce test-là, Jacques Forêt.
Avec grand plaisir.
Les gens qui nous écoutent, le temps file, nous reste très, très peu de temps. Puis, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent au travail parce qu'on est une radio web. Pour rehausser le plaisir au travail. Est-ce qu'il y a des petits trucs qu'on peut appliquer là?
Bien, le fait d'utiliser ses forces puis de les identifier, ça, c'est un premier truc. Là, je répète l'adresse du site qui est gratuit, c'est viame.org. Le fait d'identifier puis d'utiliser ses forces, c'est un bon truc. L'autre, c'est de voir dans son milieu de travail, le cerveau humain a trois vitamines dont il a besoin pour être efficace, les besoins d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale. Il faut trouver dans son milieu de travail qu'est-ce qui nous permet d'avoir des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Mm-hmm. Quelles sont nos sphères de compétences? C'est où qu'on est efficace, efficient, qu'on sent qu'on contribue vraiment à quelque chose de plus large que soi? Puis aussi de faire des choix qui sont éclairés par qui on est vraiment. C'est ça pourquoi j'aime beaucoup l'intervention par les forces, parce que ça donne des mots sur qui on est. Donc, d'être parfaitement soi-même, de trouver des sphères où on est efficace, où on contribue, puis avec qui et comment on peut avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes, ça, c'est des bonnes sources de plaisir au travail.
Mm-hmm. On mettra, Jacques Forêt, le site sur notre site,
viame.org.
C'est sûr qu'on le mettra et... je vais aller le faire. J'ai déjà hâte d'aller faire ce test-là. On peut également visionner une vidéo TED de vous qui s'intitule...
L'argent achète-t-il le bonheur et la performance?
Oh, on en est déjà un petit peu eu vent au cours de cette entrevue-là.
Exact.
On guidera aussi les gens à aller voir cette vidéo. Jacques Forêt, je rappelle que vous êtes psychologue organisationnel, oui, professeur et chercheur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ça a vraiment été un plaisir et peut-être un petit peu trop court parce que simplement votre présence est extrêmement positive et ça nous donne beaucoup d'énergie pour l'après-midi.
Mais j'en suis bien content.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour, Marielle Potvin.
Oui, bonjour, Marianne.
Le projet Voltaire, qui est un site web français qui favorise l'apprentissage de l'orthographe, vous avez découvert ça comment, vous?
Ben, en fait, c'est que j'ai une certaine veille pédagogique. Quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe en éducation ou pour perfectionner la langue française ou quoi que ce soit, en tant qu'orthopédagogue, j'ai une veille pédagogique qui fait en sorte que les informations viennent à moi.
Est-ce qu'il est utilisé, en fait, cette question-là menait à la seconde question, à savoir, est-ce que cette plateforme-là est utilisée dans nos écoles ici au Québec?
Je ne crois pas, parce que le projet Voltaire, en fait, c'est un projet qui est européen. Mm-hmm. Donc, faut savoir qu'ici, les outils qui sont permis ici au Québec doivent être d'abord approuvés par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, je ne crois pas que le projet Voltaire soit beaucoup utilisé. Par contre, en adaptation scolaire, on a une marge de manœuvre, nous, qui nous permet d'utiliser ce que bon nous semble compte tenu des difficultés de nos élèves. Donc, pour nous, c'est permis, mais pour l'ensemble des écoles, l'ensemble des classes régulières, je ne crois pas que ce soit très connu. En fait, j'en ai pas entendu parler dans mes réseaux et j'ai l'impression de détenir un petit trésor caché,
que vous partagez avec nous, ce qui est vraiment très gentil, Marielle.
Oui.
Comment il fonctionne, ce site-là?
Bien, en fait, c'est un site qui est gratuit, qui est en ligne, mais qui est aussi disponible en application mobile. On peut l'avoir sur notre iPhone, sur notre iPad, et on va simplement sur le site là, de Projet Voltaire. .fr, ça s'écrit projet-voltaire.fr, tout simplement. Et avec un identifiant et un mot de passe, on s'inscrit gratuitement comme ça. Et justement, en ayant créé notre profil, le site va toujours garder en mémoire là où on en est dans nos progrès, dans nos résultats et tout ça. Donc, parfois, ne serait-ce qu'on a 10 minutes d'attente ici et là, où on est en transport en commun ou quoi que ce soit, c'est possible d'avoir accès partout où on a un Wi-Fi, finalement, d'avoir accès à l'application et de s'exercer.
Donc, oui, parce que le site propose des tests d'orthographe ou des exercices d'orthographe pour peaufiner nos capacités à écrire.
Oui, c'est ça, pour se perfectionner. Et jusqu'à maintenant, le site existe depuis plusieurs années. Là, je peux pas vous dire précisément, mais je le connais depuis plusieurs années. Je le suggérais régulièrement à mes élèves en orthopédagogie à partir du secondaire, disons. Mm-hmm. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'il rend, il donne une accessibilité là justement aux personnes malvoyantes et c'est nouveau ça. C'est ce qui m'a mis un peu, c'est ce qui m'a épaté là quand j'ai lu les dernières nouvelles au sujet du projet Voltaire. Effectivement, on doit passer un test pour établir notre niveau de connaissance. Donc, c'est pas un test là, que tout le monde passe avec les mêmes questions, même degré, tout ça. On établit notre niveau de connaissance et de compétence de la langue française. Et par la suite, il y a des exercices qui nous proviennent, qui sont un peu sur mesure, là, personnalisés,
ah,
si on veut, pour nous. C'est ce qui est vraiment intéressant.
Est-ce que vous qui le connaissez depuis longtemps et qui l'utilisez avec vos élèves, notamment, les résultats sont probants? Comment ça doit être différent chez chacun, mais comment ça se voit, cette évolution-là?
Mais moi, je peux vous dire que les élèves l'aiment beaucoup. C'est quelque chose qui est très important parce que les élèves, quand ils sont motivés, à ce moment-là, puisque c'est sur l'informatique, puisque c'est sur Internet et tout ça, ils aiment beaucoup l'animation, ils aiment les types de questions. C'est très ludique. Donc, sous forme de jeu comme ça, ne serait-ce que cet aspect, quand je le propose aux élèves, ils me reviennent après en me disant qu'ils ont beaucoup aimé l'expérience. Mm-hmm. Donc, c'est très positif pour moi, là. C'est pas aride comme test, là. Et c'est certainement pas un concours d'orthographe.
Ouais.
C'est vraiment un outil qui sert à se développer développer au niveau de nos connaissances orthographiques, qui servent vraiment à peaufiner nos connaissances, mais à notre rythme, bien sûr, et selon notre niveau de départ.
Oui, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas, contrairement à l'école, par exemple, on n'est pas noté, ou au travail, il n'y a personne qui nous surveille, qui regarde au-dessus de notre épaule. On est, nous, avec la plateforme, avec notre ordinateur ou notre iPad, ou bon, peu importe ce qu'on utilise là, pour aller sur Projet Voltaire. Donc, il y a un rythme qui nous appartient, puis bon, on se permet peut-être un petit peu plus l'erreur si ça arrive, là.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre rapport à l'erreur est tout à fait changé à ce moment-là. Parce qu'on le fait pour nous, on le fait pour le plaisir et justement sous une forme ludique. Donc, c'est accessible à tout le monde à partir du secondaire, je dirais. Tout le monde a intérêt à peaufiner notre belle langue française. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir que depuis le mois d'août dernier, c'est maintenant accessible aux personnes malvoyantes qui ont le droit aussi de se perfectionner, évidemment. C'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui, sous forme, je suis allée un petit peu explorer cette nouvelle, ce nouveau volet d'accessibilité. Les lettres sont plus en plus grand format. Donc, c'est de cette façon-là que c'est plus accessible. C'est pas encore en braille, mais je pense qu'ils veulent le développer, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Mais contrairement à la version classique, la version pour personnes malvoyantes est en noir et blanc. Il n'y a pas d'ombre aussi. Tout est écrit plus gros. Moi, je l'ai expérimenté aussi et bien que n'étant pas malvoyante, ça saute aux yeux vraiment de voir comment c'est plus facile pour les personnes malvoyantes. Mais on sait que certaines personnes ont des difficultés avec le champ de vision, alors que d'autres, c'est plus avec certaines couleurs et tout ça. Donc, je n'y connais pas là, en détail, mais le site pour la version accessible aux malvoyants répond le mieux possible aux différentes formes de malvoyance et selon les outils personnels que chaque personne utilise à ce moment-là, il peut en tirer vraiment un grand profit. Je pense que ça peut être très bien. Évidemment, c'est toujours à améliorer, là, comme vous dites. Il y aura éventuellement une version en braille.
Oui. On répète l'adresse www.projet-voltaire.fr, accessible gratuit pour tout le monde, c'est autant si vous êtes adulte ou enfant. Marielle, et malvoyant aussi, je pense qu'il faut le répéter. Marielle Voltaire, j'allais vous appeler, mais oui, Marielle, pas de vin, Voltaire. C'est un compliment. Vous êtes orthopédagogue et c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Bon après-midi.
T'en prie, Marianne. Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde qui corrige mes fautes. Donc, peut-être qu'il n'a pas besoin de projet Voltaire, mais moi, j'irai l'explorer, bien sûr. Je vous salue. On se voit demain. Portez-vous bien. Bye-bye.